journal vous est présenté par Pierre Veil. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe Collin, bonsoir à tous. L'épidémie de coronavirus en Italie, 149 cas de contamination, un troisième décès aujourd'hui, 52 000 personnes confinées dans le nord du pays, le carnaval de Venise interrompu. Bruce de Galzin se trouve dans une localité à l'isolement en Lombardie. Le soulagement de l'ONG SOS Méditerranée qui a pu faire débarquer aujourd'hui dans un port de Sicile 274 migrants secourus récemment au large de la Libye. La discussion parlementaire sur la réforme des retraites n'avance pas. Va-t-on vers l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution ? Est-ce inéluctable, tôt ou tard ? Réponse de Karine Bécard. Au salon de l'agriculture à Paris, des innovations technologiques pour améliorer la traçabilité de ce que nous consommons grâce à un smartphone. Après ce journal, toute l'actualité sportive avec Louis de Bergevin. Au programme, entre autres, ce soir, le PSG affronte Bordeaux en Ligue 1, ambiance au Parc des Princes. Les mondiaux mitigés des Bleus en biathlon, les garçons ont brillé, les filles un peu moins. Le rugby, le tournoi des Six Nations, un 15 de France nouveau et séduisant après sa victoire contre le Pays de Galles hier. Retour aussi sur la nette victoire cet après-midi de l'Angleterre sur l'Irlande, 24 à 12.
France Inter.
Les 52 000 habitants de 11 villes dans le nord de l'Italie sont depuis aujourd'hui en quarantaine avec interdiction d'entrer et sortir de leur zone. Conséquence d'une brusque multiplication des cas de coronavirus avec 3 décès. Dans toute l'Italie, on compte 149 cas de contamination. En Lombardie et Vénétie, les mesures de confinement se mettent lentement en place. Les habitants sont surpris, mais plutôt disciplinés. Comme a pu le constater notre envoyé spécial Bruce de Galzin, dans la localité de Casalpusterlengo, à 60 km de Milan.
Ils sont au moins une centaine. La file longe tout le grand magasin et tous portent un masque. L'image détonne, mais Chiara, qui attend pour faire quelques courses, est plutôt détendue.
Non, je viens prendre peu de choses et des choses nécessaires. Je ne suis pas inquiète. Ça me fait même un peu rire parce que on a l'impression d'être dans un film de science-fiction.
Piero, lui, semble un peu moins rassuré. Ce retraité comprend très bien les mesures restrictives.
Le directeur fait entrer les gens 10 par 10, et puis on fait ses courses, et on sort pour éviter les rassemblements. C'est la règle qu'on nous a dit de suivre.
Le directeur compte en effet un à un ses clients, et Davide s'étonne de cette foule qui se masse devant son supermarché.
Comme le village est fermé, qu'on ne peut pas entrer ni même le quitter ou venir d'autres villages, nous on a choisi de laisser le supermarché ouvert, et tout le monde vient ici. Il y en a qui pensent peut-être que c'est la fin du monde. Je ne sais pas, en tout cas, ils sont tous venus ici. Ils ont tous un masque, mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste de la prévention. Mais ceux qui ne sont pas malades ne devraient pas le porter.
Le supermarché a fermé à 13h, mais demain, Davide a promis d'ouvrir toute la journée. À Casalpusterlengo, Bruce de Galzin, France Inter.
En raison de l'épidémie de coronavirus, les festivités du carnaval de Venise qui devait se terminer mardi sont annulées, ainsi que toutes les manifestations sportives dans la région. L'Iran est le pays où le coronavirus a fait le plus de morts hors de Chine, avec 8 décès. Le Pakistan a décidé de fermer sa frontière avec l'Iran, de même que l'Arménie. Ailleurs au Moyen-Orient, la Jordanie interdit l'entrée à tout non-jordanien venant de Chine, d'Iran et de Corée du Sud. En Israël, 180 écoliers doivent rester cloîtrés chez eux pendant 14 jours après avoir été en contact avec des touristes sud-coréens ayant contracté le virus. La directrice du Fonds monétaire international affirme que le coronavirus met en péril la reprise de l'économie mondiale. Elle l'a dit aujourd'hui lors d'une réunion du G20 à Riyad. En Chine, je vous le rappelle, le bilan de l'épidémie atteint 2442 morts. Les 274 personnes secourues récemment au large de la Libye par le navire Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée ont débarqué cet après-midi en Sicile, dans le port de Pozzallo. Le ministère italien de l'Intérieur a donné son accord. Ces migrants seront placés en quarantaine aussi longtemps que nécessaire. Le personnel, lui, restera isolé à bord du bateau. Des précautions, évidemment, conséquence certainement de l'épidémie de coronavirus en Italie dont on vient de parler. Laurence Bondard est porte-parole de SOS Méditerranée. Elle était sur le navire. Elle est soulagée après ce débarquement. Elle l'a dit à Antoine Perrin.
C'est un très grand soulagement pour nous tous. C'est un grand soulagement pour l'ensemble des rescapés qui étaient à bord de notre bateau ces derniers jours, ces 5-6 derniers jours. En même temps, on comprend, on voit bien et on subit régulièrement des blocages incompréhensibles, et c'est intolérable de faire attendre comme ça des gens qui sont déjà très traumatisés. On rajoute du traumatisme au traumatisme. C'est urgent de pouvoir mettre en place un système de débarquement qui soit prévisible, qui soit coordonné, et qui permette d'éviter de devoir systématiquement à chaque nouveau sauvetage de redemander un lieu sûr et devoir attendre de nouveau qu'un système de répartition soit mis en place ou qu'un port s'ouvre. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête vite, il faut qu'un mécanisme de répartition soit en place et fonctionne, soit coordonné, et c'est possible, on sait que c'est possible.
La porte-parole de SOS Méditerranée avec Antoine Perrin. La participation aux élections législatives de vendredi en Iran a été de 42,5%, annonce du ministre iranien de l'Intérieur, un taux d'abstention record pour ce type de scrutin depuis 1979. Des milliers de candidats modérés ou réformateurs n'ont pas eu le droit de se présenter. Les électeurs avaient donc peu de choix. Les autorités, elles, tentent laborieusement de justifier cette faible participation par la météo, l'épidémie de coronavirus et le drame récent du Boeing ukrainien abattu par erreur par les gardiens de la Révolution. Aux États-Unis, Bernie Sanders a largement remporté le vote dans le Nevada pour la primaire démocrate avec 46% des suffrages. À 78 ans, Bernie Sanders est désormais en position plutôt favorable pour obtenir l'investiture démocrate et affronter Donald Trump en novembre, même si la course est encore longue, avec notamment le Super Tuesday le 3 mars, 14 États vont voter. Retour en France, les débats sur la réforme des retraites se poursuivent à l'Assemblée nationale. Les députés ont travaillé aujourd'hui au Palais Bourbon. L'opposition a déposé des dizaines de milliers d'amendements. Le gouvernement voudrait que le texte soit voté en première lecture avant les élections municipales. Cela semble très difficile. Les discussions dans l'hémicycle n'avancent pas. Alors il reste une option, de plus en plus souvent évoquée, l'article 49.3. Pour l'instant, Karine Bécard, personne ne veut porter le chapeau de cette procédure qui permet de faire passer un texte sans vote de l'Assemblée.
Pour l'instant, la décision politique de recourir à l'article 49.3 de la Constitution n'est pas encore prise. Certes, durant tout le week-end, les échanges téléphoniques se sont multipliés entre les différents cadres de la majorité et l'exécutif, mais manifestement, le Premier ministre hésite. Lui seul est habilité à engager la responsabilité de son gouvernement, et il est conscient notamment qu'une partie de ses députés refuse d'abandonner si vite le débat dans l'hémicycle. Alors c'est vrai qu'en une semaine, l'article 1er n'a même pas encore été adopté sur les 65 que compte cette réforme des retraites, mais il est un peu compliqué d'expliquer que tout a déjà été tenté. En fait, Édouard Philippe attend de voir comment va évoluer sa majorité, parce que pour l'instant, la moitié seulement souhaite qu'il dégaine dès cette semaine l'article 49.3, alors que l'autre moitié lui demande de pouvoir encore travailler au moins jusqu'à la semaine prochaine.
Karine Bécard sur l'éventuelle utilisation de l'article 49.3 de la Constitution. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, annonce que les professeurs dont les hausses de salaire sont actuellement en discussion gagneront 100 euros net de plus chaque mois à partir de l'an prochain pour ceux qui sont en début de carrière. Le salon de l'agriculture qui a ouvert hier au public au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, c'est l'occasion bien sûr d'admirer les animaux, plus de 3000, d'y rencontrer les agriculteurs, mais aussi de faire le point sur les dernières technologies, notamment dans le numérique. Un espace entier y est dédié dans le hall 4, baptisé la ferme digitale. On découvre des technologies dans le domaine de la traçabilité. D'où vient le produit que vous venez d'acheter, du producteur jusque dans le rayonnage où vous allez le trouver, Connecting Food vous permet avec un smartphone et un QR code de remonter toute la chaîne de fabrication. Reportage de Manuel Ruffès qui a rencontré un des créateurs de ce procédé.
Partant d'un constat simple, les deux tiers des consommateurs n'ont plus confiance dans leur alimentation. Stefano Volpi, l'un des cofondateurs de Connecting Food et qui a fait toute sa carrière dans l'agroalimentaire, a senti l'urgence de retisser ce lien.
On est convaincu que très vite, dans les prochains mois, dans les prochaines années en tout cas, la transparence sera la règle fondamentale. Et aucun consommateur acceptera d'acheter les yeux fermés en produit.
Alors voilà, un QR code sur l'emballage, un smartphone en main et c'est parti.
J'utilise l'appareil photo de mon smartphone.
Tout simplement, pas d'application.
Tout simplement, pas d'application à télécharger. Je flash le QR code et là, vous avez tout l'historique qui font de la production de jambon tendre noix d'Erta.
Jusqu'à retrouver même le nom du producteur de porc. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Toutes ces informations sont certifiées en temps réel au fur et à mesure de la chaîne de fabrication grâce au système numérique Live Audit.
Quelque part, c'est une espèce de Waze des produits alimentaires. Le produit avance dans la filière, il est suivi, on vérifie qu'il est sur le bon chemin, qu'il n'y a pas de problème de non-respect de cahier des charges. Et s'il y a un problème, le produit est réorienté vers d'autres filières qui ont différents cahiers des charges.
Connecting Food compte déjà dans ses clients de grandes marques de l'agroalimentaire.
Reportage de Manuel Ruffez au Salon de l'Agriculture. C'est un lieu de départ de randonnée en montagne dans les Pyrénées, l'Hospice de France. Les randonneurs sont nombreux en ce moment. Ils doivent être très prudents, vigilants. La moindre erreur peut être fatale. Un militaire d'une quarantaine d'années, originaire de Pau, est mort lors d'une randonnée près de l'Hospice de France. Une chute, faute d'équipement adapté. Récit de Marius Delaunay de France Bleu Occitanie.
Une chute dans cette vallée à la frontière avec l'Espagne, entre 1800 et 2000 mètres d'altitude. Le militaire randonnait avec deux amis en haute montagne et c'est sur le chemin du retour, lorsqu'il s'est distancé du groupe, que le drame est arrivé. L'homme est pourtant un habitué des randonnées. Le problème, c'est qu'il n'est cette fois pas équipé de crampons sur ses chaussures. Et c'est lorsqu'il décide de descendre une pente raide qu'il finit par glisser sur une plaque de neige dure, presque gelée. La chute lui est fatale. Les secours de montagne sont avertis vers 16h par les deux amis du militaire qui ont rejoint leur véhicule et qui étaient, eux, équipés de crampons. Ils retrouvent finalement le corps du randonneur une demi-heure après. L'homme est déjà décédé lorsqu'ils arrivent sur place. Les gendarmes de haute montagne appellent à redoubler de vigilance cette saison. La neige est parfois rare, mais elle est souvent dure et très glissante à haute altitude.
Marius Delaunay de France Bleu Occitanie. Un homme d'une cinquantaine d'années a tué son ex-compagne tôt ce matin avant de se suicider dans un village du Var, près de Brignoles. L'homme, un policier en poste à Toulon, s'est rendu au domicile de cette femme et a ouvert le feu à plusieurs reprises. Il a ensuite retourné son arme contre lui. On compte 10 féminicides depuis le début de l'année. L'année dernière, on a recensé au moins 126 féminicides. Avant de retrouver dans quelques minutes le journal des sports, on va parler des sports et des réseaux sociaux avec cet appel sur Twitter. Objectif, trouver des joueuses pour une équipe de football nationale. Ça se passe à Djibouti en Afrique de l'Est. Sarah Mbarek a lancé un appel il y a quelques jours sur son compte. À la tête de l'équipe féminine depuis début septembre, cette Française, ancienne joueuse au club de Montpellier, veut une équipe de haut niveau pour ce pays de 950 000 habitants. Elle espère, Raphaël Aubry, convaincre des joueuses expérimentées nées à Djibouti de la rejoindre.
Recherche joueuse de football de nationalité ou d'origine djiboutienne. Voilà le message de Sarah Mbarek sur Twitter.
Ce qui passe partout dans le monde, c'est les réseaux sociaux. Même si c'est pas trop mon style de faire ce genre de choses, pourquoi pas essayer.
La sélectionneuse de l'équipe nationale féminine de Djibouti le dit, ces joueuses manquent d'expérience, l'équipe n'a gagné aucun match depuis 14 ans.
Par l'expérience, on peut progresser, donc en amenant des joueuses qui ont déjà du vécu, c'est des joueuses qui vont pouvoir encadrer et tirer le groupe vers le haut et montrer l'exemple.
Deux joueuses françaises nées à Djibouti se sont déjà manifestées, reste pour elles à obtenir la double nationalité, c'est le cas d'Isabelle Lomelet, une ancienne des clubs d'Angers et de La Roche-sur-Yon.
Parce que mon pays d'origine m'a apporté en me donnant la vie, pour moi la meilleure des choses c'est de pouvoir le rendre en jouant au foot et en défendant ses couleurs.
Sarah Mbarek regarde aussi au Canada, en Suède, au Maroc, mais le temps presse, l'équipe de Djibouti joue en avril contre l'Éthiopie, match qualificatif pour la CAN, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines à l'automne, même si...
Ça va être difficile, mais en tout cas on fera mieux qu'au mois de novembre, parce qu'au mois de novembre on a joué l'Éthiopie déjà, on a perdu 8-0, donc là on était vraiment au tout départ du travail et de la sélection, donc faut prendre le temps, faut être patient pour bien faire les choses.
La CAN, ce sera plutôt pour dans 2 ou 4 ans.
Madonna en concert à Paris depuis hier soir. Les 2800 spectateurs du premier des 12 concerts ont dû patienter hier soir jusqu'à minuit pour la voir apparaître sur la scène du Grand Rex. La faute à des problèmes techniques imprévus selon la production. L'incompatibilité de certains décors avec la scène. Des tableaux ont dû être modifiés, entraînant de nouvelles répétitions. Madonna est vraiment très exigeante. Elle voulait que tout soit parfait pour cette première date parisienne, dit son entourage. Un show irréprochable, selon les spectateurs. Le show a pris fin un peu après 2h15 du matin et il n'y avait plus de métro pour regagner son domicile. Si vous aimez le cinéma, ne manquez pas ce soir sur France Inter, de 20h à 21h, le 30e prix des auditeurs de France Inter, du Masque et la Plume, avec Jérôme Garcin. Ça sera en présence du cinéaste François Ozon qui a signé grâce à Dieu. Les couleurs du ciel, la météo, c'est maintenant.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et on a rendez-vous avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Avant un léger déclin des températures à partir de mardi et le retour de la neige vers 1000-1200 mètres sur les massifs de l'Est, plus haut sur les Pyrénées à partir de 2000 mètres, demain les valeurs vont conserver une allure printanière avec une moyenne de 15 degrés dans la moitié nord, 18 au sud avec des pointes de 22 à 24 dans le golfe du Lion. Avec le maintien d'un ciel bleu sur la Corse, des Alpes à la Méditerranée et des Pyrénées au Massif central, dans le sud-ouest et le Val-de-Saône, les éclaircies seront précédées de brouillard et de grisailles tenaces en matinée. Enfin, plus au nord, quelques trouées possibles l'après-midi entre le Val-de-Loire, le bassin parisien et les Ardennes, mais plus près de la Manche, ciel souvent chargé, doublé en seconde partie de journées de pluie arrivant par la mer et accompagné d'un vent jusqu'à 90 km à l'heure sur les départements côtiers.
Jean-Michel Golinski, les conditions de circulation ce dimanche soir. On va retrouver Victor Vasseur au PC Mobilité. Bonsoir Victor.
Bonsoir à tous.
Du monde sur la 6.
Direction Paris, entre Beaune et Auxerre, le trafic est dense, mais il n'y a pas d'embouteillage selon nos cartes. Toujours sur la 6, quand vous arrivez en Ile-de-France, ça coince après Grigny. C'est en Rhône-Alpes hein, où il y a le plus de ralentissements avec les retours des vacances. D'abord sur la 46 entre Chambéry et Lyon, et puis sur la 7, soyez prudents à partir de Vienne, car jusqu'à Orange, le trafic est chargé. Enfin, ça bouchonne lorsque vous souhaitez rejoindre Bordeaux avec la 63 depuis Arcachon.
Vous écoutez France Inter, il est 19h16 et maintenant l'actualité sportive. Ce soir, le journal des sports est présenté par Louis de Bergevin. Bonsoir Louis.
Bonsoir Pierre.
Premier chapitre de votre journal.
Les mondiaux de biathlon en Italie qui se sont terminés cet après-midi. Les Français se sont illustrés dans la dernière épreuve. Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin sur le podium respectivement. Deuxième et troisième. Martin Fourcade reste lui à 11 titres mondiaux. Amaya Cazenave, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Anterselva, vous avez suivi la compétition. Alors, ça a été une réussite ou pas?
Alors, c'est en demi-teinte. Ça a été une réussite pour les garçons. L'équipe de France masculine a survolé la compétition. Le bilan est faste. 7 médailles, dont 3 en or sur la poursuite, l'individuel et le relais. Ce n'est pas compliqué. À chaque course, les Bleus ont placé un de leurs représentants sur le podium. Dans l'histoire du biathlon français, l'équipe de France n'a fait mieux qu'une seule fois. C'était lors des championnats du monde d'Oslo en 2016 avec 11 médailles. Cette année, les Bleus, ils ont sans doute la meilleure équipe du monde, la plus dense, la plus homogène, avec 4 représentants dans le top 10 mondial. Ils étaient attendus, mais ils ont tenu leur rang, tranquillement, presque. Ils n'ont jamais craqué. Quand ce n'était pas Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet et ses skis de feu prenaient le relais. Et puis que dire aussi d'Emilien Jacquelin, la révélation de ces mondiaux. À 23 ans seulement, le Benjamin de l'équipe, fan de vélo, a remporté 4 médailles, dont 2 en or. De quoi voir le futur avec optimisme, même si Martin Fourcade prend sa retraite à la fin de la saison. Sur ce point-là, d'ailleurs, mystère toujours, Martin Fourcade n'a rien dit. Et puis on disait, bilan donc en demi-teinte, parce que du côté des filles, bon là c'est le gros flop. Hein. Aujourd'hui ça va être un peu mieux sur la Mastart. Julia Simon termine 5e, Anaïs Bescon 10e, Célia Emonier 11e. Mais cela ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Les Françaises sont passées complètement à côté de leurs mondiaux. Elles ne se sont jamais senties à l'aise sur le pas de tir italien. De trop nombreuses imprécisions à la carabine, symbole de ce naufrage. Le relais hier, un véritable fiasco. Les Bleus 14e et dernière, c'était le pire résultat de l'histoire. Après une petite pause, il leur restera 3 étapes à ces filles en Coupe du Monde pour essayer de se rattraper.
Merci Amaya Cazenave en direct des mondiaux de biathlon à Anterselva en Italie.
Voilà pour le biathlon. Louis de Bergevin, on passe au football. Retour à la Ligue 1 pour le PSG.
Ah oui, les Parisiens affrontent Bordeaux ce soir pour clore la 26e journée. Cédric Guillot, vous êtes au Parc des Princes. Bonsoir.
Bonsoir Louis.
Vous allez donc suivre ce match tout à l'heure. Ce match, c'est surtout le match d'après pour les Parisiens.
Oui, effectivement Louis, hein, 5 jours après la défaite de Dortmund, le Paris Saint-Germain qui retrouve donc le championnat. Ce sera le premier de ces 4 matchs dans l'Hexagone avant justement de se confronter de nouveau aux Allemands de Dortmund le 11 mars prochain. Quatre matchs qui, on peut le penser, sont dans les esprits des Parisiens, surtout là pour préparer ce match retour, car évidemment, il n'y a plus trop de suspense en championnat. Paris qui compte 10 points d'avance avant de jouer ce soir sur son dauphin, l'Olympique de Marseille. Paris qui vise et qui va sans doute avoir un nouveau titre de champion de France. Et le PSG va en tout cas, pour le match de ce soir, vouloir de nouveau goûter à la victoire après la désillusion de mardi soir en Allemagne.
Le PSG va aussi vouloir se montrer soudé, Cédric, après plusieurs événements qui ont agité les derniers jours parisiens.
Oui, des faits qui ne sont pas très glorieux, hein, Louis, pour les Parisiens, avec la mise en cause du staff médical par Neymar après le match de Dortmund. Il y a eu également les insultes du frère de Kimpembe à l'encontre de Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, toujours après le match de Dortmund. Et puis cette soirée festive, jeudi soir, qui a concerné plusieurs joueurs parisiens comme Neymar, Icardi et Cavani, et qui a encore provoqué des remous en interne. Le Paris Saint-Germain qui finalement a cette capacité incroyable de faire parler de lui quasiment tous les jours, même en dehors du terrain, même si ce soir, évidemment, on va parler rectangle vert et Ligue 1 face aux Girondins de Bordeaux.
PSG Bordeaux, c'est donc à 21h ce soir. Merci Cédric Guillou. Le PSG qui compte 10 points d'avance sur son dauphin Marseille et qui pourrait encore creuser l'écart puisque l'OM a perdu hier contre Nantes. Rennes se rapproche un peu des Marseillais avec la victoire 2-1 sur Nîmes. Ça vient de se terminer. Et puis plus bas dans le classement, Reims arrache le match nul à Saint-Etienne. Un partout cet après-midi. Un pénalty dans le temps additionnel qui permet aux Rémois d'égaliser.
En quelques semaines, Louis, le 15 de France a changé.
Oui, ce n'est plus le même visage, plus le même caractère pour l'équipe de France de rugby. Oubliez les défaites encourageantes et les 10 années de disette, quelque chose a changé chez les Bleus qui ont gagné au Pays de Galles hier et qui se retrouvent maintenant favoris du tournoi Destination. Ce tournoi, ils ne l'ont plus remporté depuis 10 ans. Les supporters reviennent, les téléspectateurs aussi. Mais ce changement, ceux qui en parlent le mieux, ce sont les rares anciens encore présents, ceux qui ont connu les années de galère et le marasme tricolore, comme le talonneur Camicha au micro de Fanny Lechevestrier.
Je vous avoue que... À mes arrivées en équipe de France, c'était dommage, quoi, parce que voilà, on sentait que le public, bah, il se lassait un peu de nos défaites et que c'était dur. Voilà, c'était une pente dure à remonter, mais en tout cas, bien sûr, ça fait plaisir de voir que les gens commencent à réaimer le rugby français et voilà, à nous supporter, quoi. Après voilà, il reste encore deux gros matchs. Comme je vous ai dit, il faut qu'on profite de cette victoire, mais bien sûr, dans notre tête, on rêve un petit peu. Je peux vous dire que bien sûr que tout le monde rêve de ça et c'est un objectif.
C'est pas vous dans le vestiaire de faire un grand
chelem ? Non, bien sûr que non, on se le dit, mais devant les journalistes, il faut se méfier un peu. Quoi.
Le grand chelem, en tout cas, passe par l'Écosse. Ça sera le dimanche 8 mars, dans deux semaines. L'équipe de France qui est donc toujours invaincue dans ce tournoi Destination. Et depuis cet après-midi, seule en tête, car l'Irlande s'est inclinée en Angleterre 24-12. Une bonne nouvelle pour les Bleus, mais aussi pour les Anglais, Vincent Pellegrini.
Après deux prestations décevantes à l'extérieur, le 15 de la Rose a retrouvé des couleurs à l'occasion de ses retrouvailles avec son public de Twickenham. Ce match n'a pas atteint des sommets, loin de là, et les Anglais ont surtout profité des errances d'une équipe d'Irlande apathique et maladroite, à l'image de son buteur et capitaine Johnny Sexton, méconnaissable cet après-midi. À la pause, l'Angleterre menait 17-0, et même si les Irlandais se sont montrés un peu plus agressifs en deuxième mi-temps, jamais ils n'ont été en mesure de relancer le suspense. Grâce à ce succès, les Anglais conservent une chance de remporter ce tournoi. Quant aux Irlandais, ils ne réussiront pas cette année le quatrième grand chelem de leur histoire, mais eux aussi peuvent espérer gagner cette édition, à condition de s'imposer face à l'Italie dans deux semaines et face aux Bleus au Stade de France le 15 mars. Un France-Irlande qui sera vraisemblablement la finale de ce tournoi 2020.
Mais le 15 de France garde son destin en main avec 4 points d'avance sur les Irlandais. En rugby, on joue aussi en championnat top 14 cet après-midi. Le deuxième, Lyon, qui suit le leader Bordeaux. Victoire des Rodaniens 29-20 sur le Racing 92. Hier, Bordeaux avait gagné. Ils ont 4 points d'écart en tête du classement. Il y a quelques minutes, Toulouse s'est imposé 25-7 contre Montpellier.
Le tennis maintenant, Louis de Bergevin, Félix Auger-Aliassime contre Stefanos Tsitsipas.
Et si vous ne suivez pas le tennis, ces deux noms ne vous disent probablement rien. C'était l'affiche de la finale du tournoi de Marseille cet après-midi. Et ce sera sûrement un jour la finale du tournoi d'un grand chelem. 19 et 21 ans, ils pourraient être les nouveaux Federer et Nadal. Mais en attendant, ils grandissent. Le grec Tsitsipas a l'avantage. Il remporte la finale 6-3, 6-4 et conserve son titre. Le Canadien Auger-Aliassime ne s'inquiète pas. C'est sa deuxième finale perdue en une semaine, mais il ne veut pas se précipiter.
C'est lourd de à chaque fois perdre en finale, c'est pas un bon sentiment. Je pense que j'ai besoin d'un peu de temps juste pour voir ce qu'il y a quelque chose par rapport à la finale. J'essaie au plus possible de pas trop m'en faire par rapport à mon jeune âge, par rapport à au joueur que je joue en finale. Après, oui, je pense qu'il faut se rappeler que tout va dans la bonne direction malgré tout. Et je pense que cette frustration, cette déception, elle est importante aussi. C'est-à-dire qu'il faut passer par là, il faut apprendre à digérer ça, parce que c'est pas la première, pas la dernière. Mais c'est sûr que oui, il y a un petit doute qui se dit « Ouais, mais bon, c'est quand que je vais y arriver ?» Parce que j'ai l'impression que sur les deux dernières, c'est pas comme si je suis figé ou je joue correctement. Je pourrais encore mieux jouer, mais il n'y a pas un stress énorme qui m'empêche de performer non plus, quoi.
Félix Auger-Aliassime, 19e mondial aujourd'hui. C'est le premier joueur né en 2000 à intégrer le top 100. En ce moment, quand il y a du saut à la perche, on s'attend à un record du monde. Le jeune Suédois Armand Duplantis l'a battu deux fois ces dernières semaines, mais aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, il échoue à passer la barre des 6,19 m. On a presque envie de lui dire que ce n'est que partie remise. En revanche, pour notre Français Renaud Lavillini, c'est une très belle journée. Avec 5,94 m, il n'avait plus été aussi haut depuis deux ans. Forcément, il était très heureux après ce saut.
Ah oui, voilà, je pouvais pas rêver mieux. Je savais que j'étais dans une période un peu compliquée parce que je restais sur des perfs pourries par rapport à ce que je pouvais envisager. Et c'est sûr qu'arriver la veille de ma compète en ayant fait 5,40 juste avant, 0 deux semaines avant, c'était quand même pas idéal. Mais je savais au fond de moi que 94 c'était vraiment l'objectif summum. Je savais que j'avais les moyens, mais entre savoir qu'on peut le faire et le faire, c'est quand même autre chose. Et après, voilà, je fais un bon échauffement. Et dès l'échauffement, j'ai vu que voilà, j'étais de retour chez moi, j'étais de retour dans ce que je sais faire de mieux. 87 et 94 au premier, on sait qu'un concours comme ça au mois d'août, il y a quand même de fortes chances d'être sur le podium. Donc c'est ça aussi qui m'intéresse.
C'est Intersport avec Louis de Bergevin. Louis, un match explosif en football en Grèce.
Les deux rivaux, l'Olympiakos et le PAOK, s'affrontent en ce moment pour la 25e journée de championnat. Pour cette rencontre, 1000 policiers sont mobilisés. Tout ça dans un contexte de violence et de corruption qui touche le football grec. Et alors que la FIFA veut éviter une expulsion de la Grèce des compétitions européennes. Explication avec la correspondante de Radio France sur place, Angélique Kourounis.
Le PAOK aurait dû être relégué en seconde division pour irrégularité dénoncée par l'Olympiakos. Mais face à la bronca du PAOK, le Premier ministre conservateur a réuni le Parlement pour voter en catimini un amendement qui a transformé le déclassement prévu du club de Thessalonique en un retrait de 5 à 10 points. Pour Dionysis Goudzoulis, journaliste sportif, le monde du football grec est très malade.
En 2004, à l'Euro, on s'est dit que c'était l'occasion ou jamais de faire le ménage dans le foot grec. C'est le contraire qui s'est produit. Les projecteurs braqués sur le foot grec amplifient l'opacité du foot grec et ce n'est pas un hasard si ces dernières années, de nouveaux cas de matchs suspects ont été révélés. Il n'y a pas de réelle volonté en Grèce d'arrêter le hooliganisme.
L'affrontement du club de Thessalonique, PAOK, avec le club du Pirée, Olympiakos, dépasse de très loin le cadre du sport. Les propriétaires de ces deux clubs, un ex-député russe, Savidis, proche de la gauche pour le PAOK, et un armateur sulfureux, Marinakis, impliqué dans des trafics de drogue et proche des conservateurs pour l'Olympiakos, date de plusieurs années. Il est le symbole d'un cadre sportif verrouillé de matchs truqués où des supporters, des journalistes ont déjà été tués, des arbitres passés à tabac, sans que jamais qui que ce soit n'ait réellement pu ou voulu y mettre fin. Athènes, Angélique Kourounis, France Inter.
Et sur le terrain, à la mi-temps, l'Olympiakos et le PAOK sont toujours à 0-0.
On termine cet Intersport, Louis, par une aventure, sportive bien sûr, mais aussi humaine.
C'est le défi de Mathieu Bélanger et Loury Lag. Ils ont entrepris l'ascension des 7 plus hauts sommets de chaque continent. Ils les grimpent, mais ils les relient aussi sans aucun moteur. Un tour du monde de 100 000 km à pied, à cheval, en kayak, à ski. Dans quelques jours, le duo s'attaque au mont Denali en Alaska, près de 6200 mètres de haut. Dans une autre vie, les deux jeunes hommes ont eu une existence mouvementée entre séjours en prison et drogue. Mais l'aventure poussée à son extrême a été pour eux comme une révélation. Jérôme Val les a rencontrés.
Sur son avant-bras droit, Mathieu Bélanger a fait tatouer une carte du monde. Désormais son nouveau terrain de jeu après des années d'errance. Et ce sont des lectures qui l'ont mis sur la voie de ce défi qu'il baptise Projet Icarus.
J'ai vécu beaucoup d'expériences autour du monde. J'avais beaucoup lu de livres d'aventuriers, d'explorateurs, des modernes, des beaucoup plus anciens, comme ceux du début du siècle par exemple. Et ça m'avait beaucoup inspiré.
Pour l'accompagner dans cette expédition, son double, Loury Lag, les deux trentenaires ne se connaissaient pas il y a un an, mais leur parcours est étonnamment proche avec la même jeunesse qu'à bosser.
On
a le même passé, avec les mêmes problématiques, délinquance, drogue, tout ce qu'on a pu faire au sein de notre jeunesse. Il a déconné et moi je me suis fait attraper, et ainsi de suite.
Leur but, gravir le sommet le plus haut des 7 continents en 7 ans. Dans quelques jours, ce sera le Denali en Alaska, avant le Kilimandjaro en Afrique ou l'Everest en Asie. Mathieu Bélanger.
C'est 100 000 km à faire sans moteur, avec beaucoup de moyens différents, hein. Du kayak à pied, du vélo, du raft, du kite, tout et n'importe quoi du moment que ça n'a pas de moteur. Donc c'est complètement colossal, quoi.
Une aventure sportive et humaine sans aucun tabou, explique Loury Lag, père de 2 petites filles.
On a des discussions très très dures. Qui rapporte le corps de l'autre, ou qui peut mourir, comment on fait, comment on en parle à nos familles. Moi je suis très très brutal dans la façon d'aborder certains éléments.
Et ce chapitre 2 du projet doit durer plusieurs mois.
Icarus Project, c'est le nom de leur site internet pour les suivre.
C'était Intersport, présenté par Louis de Bergevin. Merci Louis.
Bonsoir.